ce tableau synthèse, n'est-ce pas, qui met en évidence les six caractéristiques fondamentales de la prière de Daniel, prière habituelle, mais aussi ici dans le chapitre 6, dans une circonstance très particulière, nous allons nous pencher sur la sixième indication que nous allons quelque peu creuser ensemble. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel, au chapitre 6. Daniel chapitre 6. J'en lirai pour vous les 11 premiers versets, ou versets 2 à 12, en fonction de la version que vous avez sous les yeux. Donc Daniel, chapitre 6, je lis au verset 1er dans ma version, « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Nous allons, comme nous l'avons fait soir après soir, vers le Nouveau Testament et vers le dernier livre de la Bible, vers l'Apocalypse, pour vous faire part d'une lecture dans la deuxième lettre aux Éphésiens. Deuxième lettre aux Éphésiens, puisqu'il y en a déjà une première, n'est-ce pas? Donc, chapitre 2 de l'Apocalypse, versets 1 à 7. Petite lettre, très riche, et qu'il est important de comparer avec la précédente écrite quelques dizaines d'années auparavant. Je lis Apocalypse 2, verset 1er, écrise à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es graduellement tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous avons lu, il y a un instant dans Daniel 6, cette petite phrase, versets 10 ou 11, en fonction donc des versions, trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il priait et il louait son Dieu. Son Dieu. Sixième caractéristique d'une vie de prière selon le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, une vie de prière dans laquelle la relation avec Dieu tient une place éminente. Et il va de soi que ce que nous disons ce soir est comme marié au climat de la prière de Daniel, évoquée hier soir, ce climat de louange, d'action de grâce, de reconnaissance. Il priait, il louait son Dieu. Pourquoi s'arrêter, s'apesantir, se laisser accrocher par ce tout petit mot? Tout simplement parce que ce chapitre 6 du livre de Daniel excelle dans l'utilisation de ce mot. En effet, mon, ton, son figure 7 fois dans Daniel 6. C'est intéressant, 7 fois. Comme si même derrière ces mathématiques des Écritures, puisqu'il y a un symbolisme, il faut être prudent, ne pas le pousser trop loin, mais il y a un symbolisme évident derrière certains chiffres clés des Écritures, et l'on sait généralement que notamment le chiffre 7 est un chiffre de totalité, d'accomplissement, voire de perfection. Or, nous l'avons dit, mon, ton, son, avec cette excellence suprême au verset 26, sur les lèvres de Darius, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Le Dieu de Maurice. Le Dieu de Tina. Le Dieu, je l'espère, de chacun d'entre nous. Vous remarquez que les ennemis de Daniel au verset 5 évoquent la loi de son Dieu. Nous avons vu au verset 10 ou 11, il louait son Dieu. Au verset suivant, Daniel invoquait son Dieu. Verset 16, c'est Darius qui parle, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Verset 22, c'est Daniel qui parle, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Et enfin, le constat du verset 23, on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà qui m'interpelle. Voilà qui m'interpelle parce que c'est une des constantes des Saintes Écritures. Les petits mots, lorsqu'ils correspondent bien entendu aux textes originaux, ont souvent beaucoup plus d'importance qu'il y paraît dans les Écritures. Si vous parcourez l'un des livres les plus stratégiques de l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome, vous constaterez la mention, la répétition 324 fois, je redis, 324 fois, en 34 chapitres, l'utilisation de ces adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur, pour évoquer la relation existante entre Dieu, vu curieusement, parce que c'est rarissime dans l'Ancien Testament, vu comme un père, et Israël qui est appelé le fils premier-né de Dieu. D'ailleurs, le livre du Deutéronome est encadré par deux versets dans lesquels figure cette dimension de la paternité divine à l'endroit d'Israël. Chapitre 1er, versets 30 à 33, magnifique verset. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme, porte son fils. Donc, comme un père, porte son fils. Pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Et au chapitre 32, donc quasi à la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 32, nous avons au verset 6, dans ce magnifique cantique de Moïse, cette question qui s'adresse à Israël. Est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable de toutes les calamités de corruption, ton maître ou ton auteur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Dieu, notre Père. Dans l'histoire d'Israël, Dieu est le Père parce qu'il est celui qui donne la vie. Il est le Créateur. Il est aussi celui qui redonne la vie. Il est le recréateur. Parce qu'il est le racheteur, le rédempteur. Il est le Père parce qu'il est celui qui protège, qui éduque, qui aime intensément son peuple. Celui qui veut entretenir avec lui une relation intime. Je pense à ce papa d'une fillette qui lui faisait la lecture comme il le faisait presque chaque soir avant qu'elle ne s'endorme. Et elle avait pris le livre du zoo. Et pour son imagination active d'enfant, c'est comme si elle y était avec son papa. Et elle regardait donc joyeusement les pages avec les girafes, les zèbres, les éléphants. Et voilà qu'ils arrivèrent à la page des ours. Et là, subitement, la fillette de se tourner vers papa et de lui dire en regardant ses ours gris, « Papa, tu devras me porter. » À la page suivante, c'était les gorilles. Et chose curieuse, En voyant les gorilles, l'enfant de regarder à nouveau curieusement son père et de lui dire « Papa, tu devras me porter ». Et alors, comme papa l'interrogeait, « Mais pourquoi est-ce que je devrais te porter ?» Elle lui répondit simplement, « Mais tu sais, papa, tout simplement, parce que j'aurais peur. J'aurais peur. » Nous avons en Dieu un Père extraordinaire. Il est intéressant de savoir qu'une tribu d'Afrique orientale, la tribu Kiga, donne à Dieu le nom de Biheko, qui signifie un Dieu qui porte tout sur ses épaules ou sur son dos. Et dans cette tribu, seules les femmes ou les sœurs aînées portent les enfants sur le dos. Les pères ne le font jamais. Pour représenter Biheko, un de leurs artistes a sculpté dans le bois un homme qui porte sur le dos un enfant au visage d'adulte et dans ses bras un enfant plus faible. Symbole d'un Dieu qui prend soin des humains avec la tendre sollicitude à la fois d'un père et d'une mère. Tout ceci pour souligner tout d'abord que Daniel aime son Dieu. Daniel se plaît dans la compagnie de son Dieu. Daniel prie, mais il prie par amour, bien plus que par devoir. Et la qualité de relation entre Daniel et son Dieu transparaît dans cette triple affirmation que nous avons déjà évoquée dans le passé. Dieu dit de lui, de la manière la plus claire qui soit, qu'il est un bien-aimé. À trois reprises, chapitre 9, verset 23, « Tu es un bien-aimé ». Chapitre 10, verset 11, puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé ». Verset 19, puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé ». En hébreu, c'est le terme « aimé », mais avec un sens très particulier, pour ce terme plus précis, « désirable », « précieux », une personne désirée, comptée comme extrêmement précieuse. « Oh, Daniel !» lui dit son Dieu, « Tu es très précieux à mes yeux, tu es désirable. » Et il se trouve que le participe ici, aimé, est au pluriel. Ça s'adresse à une seule personne, mais il y a une utilisation qu'on appelle emphatique, c'est-à-dire le désir de montrer l'importance de l'amour que Daniel entretient dans sa relation avec Dieu et que Dieu entretient dans sa relation avec Daniel. Alors, tu es un aimé au pluriel, pourrions-nous dire. Et donc, dans la langue française, il fallait bien essayer de rendre cette emphase d'une certaine manière. On l'a rendue en mettant cette première particule, tu es un bien-aimé. Tu es plus qu'aimé. Tu es mon bien-aimé. Un homme qui fait les délices du Seigneur et qui fait du Seigneur ses délices. J'ai relevé il y a quelques jours cette description d'un de ces instants de communion bénie avec le Seigneur dans la vie de ce grand prédicateur qui fut compagnon de Wesley, Whitfield, et qui dit ceci, cela se passe au XVIIIe siècle, « J'ai un jardin tout proche où je rencontre mon Seigneur et m'entretiens avec lui dans la fraîcheur du jour. Souvent je m'assieds en silence, offrant mon âme comme une poignée d'argile pour que le divin potier la modèle à sa guise. Et tandis que je médite, j'éprouve la présence divine, tantôt sur le calvaire, tantôt sur le Tabor, je ne cesse de connaître l'éternel amour de mon Dieu. Daniel adore son Dieu. Daniel loue son Dieu. Daniel rend un culte à son Dieu. Il lui exprime son amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, opération, mobilisation de la totalité de l'être, porté par un élan d'amour concret et pratique vers ce Dieu du salut. Nous avons évoqué hier soir ce début du psaume 18, où il est écrit du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Mais hélas, avant qu'il couche dans le lit de l'adultère. Il dit alors, « Je t'aime ». Ça paraît banal. Le terme hébreu peut être littéralement traduit par l'expression « je te chéris avec tendresse ». Cet homme viril, homme de guerre, qui emploie là un langage plein d'émotions. En hébreu, le mot est rare, impulsif, chargé d'émotions, je te chéris avec tendresse, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui m'en sauve, ma haute retraite. Et nous l'avons dit hier soir, c'est à cause de cette qualité de relation avec son Dieu qu'il est capable ensuite de s'exprimer par les mots du verset 4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » C'est son intimité avec le Seigneur qui provoque le désarroi et la panique de la puissance ennemie. Parce que quelque chose est insupportable à la puissance des ténèbres, c'est notre intimité profonde avec le Seigneur. Et puis vous avez au psaume 45 ce magnifique passage consacré aux noces du roi, mais derrière lequel se cachent des passages bouleversants de dimension messianique, verset 2, chant d'amour, des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Verset 11, écoute ma fille, l'église pour nous, la fiancée. Vois, prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Quelqu'un a souligné dans un livre remarquable que le terme le plus souvent utilisé pour désigner l'adoration, qui revient d'ailleurs 69 fois dans le Nouveau Testament, alors que les 6 autres termes qu'il évoque n'y paraissent qu'une fois chacun, signifie, je dirais qu'on peut le traduire ainsi effectivement, s'approcher pour donner un baiser. Et il y a effectivement la possibilité de le traduire ainsi, parce que dans le grec ancien, ce terme était utilisé parfois pour porter la main sur sa bouche comme pour la baiser, quand on dit un au revoir à quelqu'un que l'on aime de manière très affectueuse. Et l'auteur continue en disant, c'est le langage de l'intimité de l'amour. Le christianisme est une affaire d'amour avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Si je suis appelé à exprimer mon amour pour quelqu'un avec quelque profondeur et émotion, je dois consacrer du temps à cette personne. Il en va de même avec Dieu. Et l'auteur cite un de mes grands amis, Tozer, que je me réjouis de retrouver là-haut, qui a dit une fois, « Adorer signifie sentir dans le cœur. Une personne qui ne reste qu'à la forme et n'éprouve aucune émotion n'adore pas vraiment. Adorer signifie aussi exprimer ce que l'on sent d'une façon appropriée. » C'est Spurgeon qui a évoqué de l'amour profond et du dévouement que les soldats français avaient pour Napoléon. Et il remarqua qu'il n'était pas du tout inhabituel pour un soldat blessé à mort de se soulever sur son coude pour acclamer une dernière fois son général vénéré. Et si par chance le mourant pouvait voir Napoléon tout près, il criait de son dernier souffle « Vive l'empereur !» Une des plus éloquentes expressions de toutes vint cependant des lèvres d'un soldat qui avait reçu une balle dans la poitrine. Et alors que le chirurgien essayait de l'extraire, le mourant de murmurer « Si vous allez un peu plus creux, docteur, vous arriverez à l'empereur. » Il avait l'empereur sur son cœur. Et voyez-vous, quand on considère le livre de Daniel, ce fait que, même ses ennemis, ce fait que Darius lui-même utilise cette expression « le Dieu de Daniel, son Dieu » n'est pas du tout une banalité. C'est un langage absolument révolutionnaire pour les contemporains de Daniel. Parler de son Dieu était quelque chose d'étrange et de révolutionnaire, tout simplement parce que les divinités de l'époque étaient lointaines. Elles étaient mystérieuses. Elles étaient inaccessibles. Elles s'entouraient de mystères. Et si nous évoquons la piété, nous y reviendrons, de l'Église primitive dans l'Empire romain décadent, il en allait de même. Quel caractère révolutionnaire que celui de cette intimité de relation entre les enfants du Seigneur dans la première Église et ce qui se passait dans ce monde gréco-romain où les divinités était quelque chose d'odieux qui finissait même par dégoûter les populations qui préféraient se tourner vers les religions à mystère, vers l'Orient. Cicéron, qui fut homme politique et orateur latin un peu avant le début de l'ère chrétienne, a écrit ceci, « Les poètes ont présenté des dieux qui étaient fous de colère et ivres de convoitise. Ils ont étalé devant nos yeux leurs guerres et leurs batailles, leurs combats et leurs blessures, leurs haines, leurs inimitiés, leurs querelles, leurs plaintes, leurs lamentations, l'extrême débauche de leurs passions, leurs adultères, leurs emprisonnements, leurs unions avec des êtres humains, la naissance d'une progéniture mortelle, d'un parent immortel. » C'était pas beau. Et pourtant il y avait à Rome, et dans des villes de l'Empire de plus en plus nombreuses, un peuple d'humbles qui se réunissait avec des élans d'amour, de louange, de reconnaissance, d'adoration, un désir de vivre dans l'intimité de ce Dieu de Jésus-Christ. Voyez-vous, Daniel nous rappelle que Dieu est profondément personnel. Et c'est une des belles vérités particulièrement lumineuses de la Nouvelle Alliance. C'est ce revivaliste et évangéliste Moody qui a fait référence à Luther en disant ceci, « La vie chrétienne, d'après Luther, s'exprime par des noms personnels. » C'est une chose de dire « Jésus-Christ est le Sauveur ». C'en est une autre de dire « Il est
mon sauveur. Le diable peut dire la première. Effectivement, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais ils n'ont pas de relation avec ce Dieu-là. Le diable peut dire la première. Le vrai chrétien seul peut dire la seconde. Et là, il vaut la peine de revenir sur l'usage du mot « Père » dans le Nouveau Testament. Puisque nous l'avons dit, dans l'Ancienne Alliance, le terme « Père » est très peu utilisé, 14 fois, pour évoquer les relations de Dieu avec l'ensemble du peuple d'Israël. Une fois, la 15e, il est curieusement utilisé dans le prophète Ésaïe, au chapitre 11, dans un texte messianique pour évoquer, tenez-vous bien, le Fils. Le Fils. Le Fils de Dieu est appelé Père éternel. Tout simplement parce que le Fils de Dieu allait être en quelque sorte et une sorte de roi, n'est-ce pas ? Et le roi, dans sa relation avec Israël, dans la tradition juive, était de toute manière considéré comme un père dans ses relations de bienveillance, de souveraineté pour un peuple qu'il aime comme ses enfants. Mais lorsqu'on passe au Nouveau Testament, ce titre de père apparaît 228 fois, dont une centaine dans l'évangile de Jean, surtout en relation avec nous, ses enfants. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba !» Papa. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 15. Et nous avons dans le Nouveau Testament, dans le vocabulaire grec, toute une série de mots particuliers correspondant à des tranches d'âge pour évoquer l'enfance. Et ici, un mot particulier. On aurait pu en mettre un autre. Mais ici, le mot utilisé vient d'un verbe qui signifie « mettre au monde », « engendrer ». Et il indique d'une manière toute particulière la dimension de « parenté ». Donc d'intimité avec le Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa !» Parce que nous sommes nés de lui par un miracle absolument extraordinaire. Et cet « Abba, Papa » qui ne figure que 3 fois dans le Nouveau Testament sera utilisé notamment par Jésus. Juste avant d'être arrêté dans le jardin de Gethsémané, Marc 14, verset 36. Il sera repris dans Galates 4, 6. C'est un terme araméen, c'est-à-dire dans la langue couramment utilisée en Palestine, beaucoup plus que l'hébreu ou le grec, c'était la langue courante que Jésus utilisait. Et c'est intéressant, puisque jamais, jamais, les Juifs n'auraient osé utiliser le terme « Abba » parce qu'il était araméen, il ne faisait pas partie, si vous voulez, de la langue sacrée pour les choses religieuses, jamais il n'aurait utilisé ce terme pour s'adresser à Dieu. Dans ce recueil que j'évoquais hier soir, le Talmud, qui est donc un commentaire qui ajoute, hélas, beaucoup de textes à l'Ancien Testament, un rabbin explique « Les enfants disent « Abba » à leur papa, mais nous ne pouvons pas dire « Abba » à notre Dieu, car il est créateur du ciel et de la terre, c'est le Seigneur de toutes les choses, c'est l'Éternel des armées. » Et Jésus, lui, tout simplement, va dire, mais vous pouvez dire Abba, vous pouvez entretenir une relation d'intimité avec Dieu, vous le pouvez, en passant bien entendu par la porte basse de la croix. Demandez à un musulman qui est Dieu, il vous répondra en récitant la litanie des 99 noms précieux, sacrés, ces 99 attributs de Dieu. Vous y chercherez en vain l'expression « Père ». Nous, nous avons en Dieu un Père extraordinaire. Abba, c'est donc le mot familier dont les enfants se servaient pour s'adresser à leur père. Les domestiques, les esclaves, dans toute cette entité assez développée qui constituait la famille, n'est-ce pas, eux n'avaient pas le droit. Ils ne pouvaient pas s'adresser ainsi, bien entendu, au chef de la famille. C'était un terme réservé exclusivement aux enfants. Et là encore, Luther a dit des choses merveilleuses à ce sujet en évoquant le mot « Abba, Père ». C'est un bien petit mot, explique Luther, et pourtant il englobe tout. Il est moins expression des lèvres que cri du cœur. Quand bien même je serai la proie de l'angoisse et de la terreur, quand je serai accablé de tous côtés au point de me sentir abandonné et rejeté loin de ta présence, je n'en resterai pas moins ton enfant. Et tu demeures mon père à cause de Christ. Je reste aimé à cause de ton bien-aimé. C'est pourquoi ce petit mot « père » abrité au plus profond du cœur surpasse toute l'éloquence de Démosthène et de Cicéron et fait pâlir celle des plus habiles rhéteurs que la terre ait jamais portée. Ce n'est pas l'éloquence des mots, mais celle des murmures et des gémissements inexprimables par des mots. J'entendais la veille, s'il me souvient bien, de notre voyage pour venir ici, deux anecdotes à l'heure de grande écoute des informations du matin à la radio, deux anecdotes qui m'ont fait frémir. Et l'auteur qui disait ces anecdotes semblait en jouir profondément. La première était, je ne me souviens plus de tous les détails, pour évoquer l'histoire d'un père qui s'adresse à son enfant qui n'est plus tout petit, qui est peut-être en phase d'approcher de très près l'adolescence, et lui dit... « Mon fils, tu as confiance en moi ?»« Oui, papa. »« Bien, alors monte sur cette table. » Et l'enfant, d'être très troublé parce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre de la part de son père une telle demande. Alors il est quelque peu réticent, et le père, voyant sa réticence, de répéter « Mon fils, est-ce que tu as confiance en moi ?»« Mais oui, papa. »« Bon, eh bien, monte sur cette table. » Le fils finalement s'exécute sans comprendre, et une fois qu'il est sur la table, debout, il regarde son père, l'interroge des yeux, et le père lui dit « Bon, maintenant mon fils, plonge la tête en avant. » Alors le fils regarde son père, ne comprend pas, plus que perplexe, et le père de lui dire « Mais mon fils, est-ce que tu as confiance dans ton père ?» Oui, papa, j'ai confiance en toi. Alors, plonge la tête de la première du haut de cette table. Et le fils, d'avoir une résistance tout à fait évidente, hein, il n'était certainement pas masochiste, et de ne pas vouloir se jeter dans le vide, la tête la première. Et le père d'insister. Mon fils, est-ce que tu as confiance en moi? Mais oui, papa, j'ai confiance en toi. Mais alors, jette-toi. Et finalement, le fils de se jeter, la tête la première, et de se relever le visage dégoulinant de sang. Et le père de lui dire, « Mon fils, je voulais t'enseigner quelque chose. Je voulais te prouver que les enfants ne doivent pas avoir confiance dans leur père. » Je ne sais si vous comprenez pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Je voulais raconter parce que son cynisme et l'expression de la déformation du Père dans la pensée de notre société contemporaine, à cause de la démission de tant de pères, de l'absence de tant de pères, ou de la mauvaise éducation de tant de pères, qui fait que, hélas, et peut-être même pour certains d'entre nous ici, le mot père ne fait monter que des frissons jusque dans notre tête, parce qu'il évoque des souvenirs qui ne nous donnent pas du tout envie d'avoir une intimité avec Dieu. Je bénis Dieu de ce que il est heureusement possible de connaître intérieurement une guérison de ces blessures liées à la déformation du Père dans le cœur de l'enfant même devenu adulte. Et c'est pour cela que je voudrais vous encourager à passer suffisamment de temps dans les Écritures jusqu'à ce que vous découvriez cette différence tellement grande entre la paternité divine et cette paternité complètement déformée, devenue odieuse caricature trop souvent du Père dans notre société qui s'est éloignée de Dieu. Passez du temps, dites-le à Dieu, « Oh Dieu, j'ai besoin que tu te révèles à moi comme ce vrai Père. Tu connais mon passé, tu connais peut-être mon présent, tu sais ce que je pense, mais tu m'as donné ce livre extraordinaire pour me révéler la beauté de ta paternité. Et ouvre aussi mes yeux pour que je sache voir autour de moi, dans ton Église, comment la beauté de la paternité divine peut se refléter dans la paternité humaine lorsqu'un homme vient rencontrer son Sauveur et est sauvé par lui. Mon Dieu est donc mon confident, à qui je peux tout raconter et que je peux connaître intimement. Quand on aime bien quelqu'un, on passe du temps avec lui. La prière ne consiste pas à composter, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas une de ces bornes oranges dans laquelle on glisse un message qui s'appellerait prière en demandant simplement à Dieu de bien vouloir composter, y faire une marque qui nous permette de nous engager dans l'itinéraire d'une journée. Dieu n'est pas une borne. Nous n'avons pas avec Dieu une relation simplement fonctionnelle. La Bible nous parle d'une relation personnelle. J'ai été très frappé d'apprendre qu'en Israël, depuis déjà quelque temps, les Juifs peuvent demander à Dieu d'exaucer leurs vœux sans se déplacer grâce à un fax installé près du mur des Lamentations. Et en permanence, un employé se charge d'insérer le message dans les interstices des pierres. C'est une vieille tradition, mais là, c'est ce que font les employés. Comme ça, les gens ne se déplacent pas, sauf, bien entendu, le jour du sabbat. Mon épouse, tout à l'heure, a évoqué les cinq doigts de la main. Et les cinq doigts de la main me rappellent une histoire authentique qui fait allusion au début du psaume 23, un des psaumes les plus chéris des croyants du monde entier. L'Éternel est mon berger. Mon berger. Et il faut savoir qu'en hébreu, les mots « berger » et « ami » proviennent de la même racine. L'Éternel est mon ami. De serviteur, prédicateur de l'Évangile, s'était rendu en vacances dans les collines et falaises du Pays de Galles. Un jour, au cours d'une promenade, ils rencontrèrent un berger. Ce berger ne connaissait rien de l'Évangile. Il écouta le message et avec simplicité, il accepta le Christ comme sauveur et seigneur de sa vie. Et ce berger ne savait pas lire. Alors, ils se demandèrent comment l'aider pour la suite de sa vie avec le Seigneur, puisqu'ils allaient, eux, repartir dans leur pays. Ils lui firent alors répéter la phrase « Le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur est mon berger » avec les 5 doigts de la main gauche. « Le Seigneur est mon berger. » Alors il a répété avec eux « Le Seigneur est mon berger. » Il a dit « Mais dans la journée, chaque fois que tu prieras, n'oublie pas, fais ceci. Le Seigneur est mon berger. » Et puis, ils l'ont quitté. 12 années plus tard, par un jour d'orage, l'un des 2 prédicateurs de retour dans cette région pour ses vacances doit se réfugier très rapidement dans une chaumière isolée. La femme qui l'accueille, de le voir très touché au regard de ce portrait et de lui dire « Mais, monsieur, vous savez, c'est mon fils. Mon fils était berger. Et il est mort suite à une chute du sommet d'une falaise. » Et alors elle lui raconte les circonstances et puis au bout d'un moment elle lui dit « Mais il y a quand même quelque chose qui me trouble encore aujourd'hui. C'est que lorsqu'on a retrouvé son corps au bas de la falaise, il tenait curieusement dans sa main droite l'avant-dernier doigt de sa main gauche. » Alors, le prédicateur, d'illuminer son visage de bonheur et de raconter à cette mère qui souffrait de ce départ ce que signifiait ce geste du dernier moment, cette relation d'amour qu'un berger avait entretenue avec son ami, son vrai berger, l'annulaire, le doigt de l'alliance, le doigt de l'amour, le doigt de l'intimité, le doigt de cette relation toute particulière, au-delà de notre cher conjoint, avec notre Dieu. Au cours d'une réception dans un salon londonien, un acteur de grand renom fut prié de réciter quelque chose pour l'agrément des hôtes. Il y consentit et demanda à l'auditoire quelque chose de particulier qu'il désirait entendre. Et après un moment de silence, un ecclésiastique d'un âge avancé se lève dans ce salon et dit « Écoutez, monsieur, pourriez-vous nous réciter le psaume 23 ?» Un étrange sourire de passer sur le visage du grand acteur, il se tait un moment, puis il dit « Je le puis, et je le ferai bien volontiers, mais à une condition. C'est que, après que je l'aurai récité, vous ferez de même, cher ami. » Le grand acteur de s'exécuter, il commence le psaume de façon impressionnante, sa voix, son intonation était parfaite, il tient son auditoire sous le charme pénétrant de son talent, et quand il a fini, le salon explose dans un tonnerre d'applaudissements. Comme les applaudissements s'apaisaient, le vieil ecclésiastique de se lever et de commencer à réciter. Sa voix n'était pas remarquable. Son intonation n'était pas sans faute. Quand il eut fini, aucun applaudissement ne rompit le silence.
mais il n'y avait pas un œil qui fût sec dans la salle. Bien des têtes et des cœurs étaient inclinés avec respect. Le grand acteur se leva de nouveau. Sa voix tremblait d'une émotion qu'il ne pouvait contenir, tandis qu'il posait sa main sur l'épaule du vieillard et disait à l'auditoire « J'ai atteint vos yeux et vos oreilles, mes amis. Cet homme a atteint vos cœurs. Et voyez-vous, il y a une différence. Je connais le psaume 23, mais lui connaît le berger. » Nous pouvons connaître quantité de passages bibliques. Et ça ne fera ni chaud ni froid, ni à notre cœur, ni à notre entourage, ni même au cœur du Seigneur. Mais nous pouvons connaître le Dieu qui parle à notre cœur. Alors j'aimerais terminer, et terminer en évoquant deux choses dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, un mot particulier, important, qui résume bien une attitude juste vis-à-vis de Dieu. C'est un petit mot grec qui a été francisé pour donner un prénom très peu usité aujourd'hui, Euseb. Et peut-être y aura-t-il bientôt des Euseb quand on saura ce qu'il signifie. C'est le mot grec, Eusebeia, qui a donné le mot piété. Le problème, c'est que le mot piété est un mot qui, aujourd'hui, est aussi mal utilisé et qui a une connotation souvent trop négative. En réalité, ce mot, il y en a un autre, hein, un peu différent, Eulabeia, mais ici c'est Eusebeia. Et ce mot évoque la fréquence, la valeur, l'intensité de nos relations avec ceux qui nous ont communiqué la vie. Dans le domaine horizontal, nos parents, toute notre famille aussi. Et puis dans le domaine vertical, avec celui qui est notre Créateur et notre Rédempteur. C'est un terme qui souligne que notre attachement doit être fait, tenez-vous bien, de tendresse et de respect. C'est intéressant parce que c'est le Robert qui le dit. Ça colle avec le grec, ça colle avec les Écritures, mais c'est le dictionnaire, le Robert, qui le dit. Je ne fais pas de publicité, mais c'est intéressant. Un vieux classique des grands dictionnaires profanes du grec dira « c'est le respect et l'amour des dieux » dans la Grèce antique. Calvin va dans le même sens, j'appelle piété une révérence et amour de Dieu conjoint ensemble. Ça, c'est du vieux français, n'est-ce pas? Un mariage entre la révérence, le prosternement, le profond respect et l'amour, tout cela mis ensemble. Un vieux dictionnaire biblique d'il y a 2 siècles dira, c'est l'application de toute sa volonté, de tout son cœur au service de Dieu. Ce n'est pas simplement l'accomplissement des devoirs religieux, mais l'élan d'amour filial qui nous pousse à entretenir une vie chrétienne de qualité. Nous avons pris plusieurs fois, depuis jeudi, des exemples dans la vie familiale. J'aimerais évoquer Emmanuel, notre Emmanuel. Il y en a d'autres, hein, ici, y compris. Et j'ai évoqué déjà 2 fois, je crois, Emmanuel, je vais encore l'évoquer quand il était enfant. Quand Emmanuel était enfant, il allait à l'école, comme tous les enfants, et là, et ça me réjouit, il avait par moments de grosses discussions au sujet de papa. Et il disait, ou quelqu'un lui disait, « Mon papa, il a une Renault 4. » Et Emmanuel, aussitôt de renchérissait, « Mon papa, il a une Renault 12. » Si j'avais été militaire de carrière et qu'il ait entendu un autre enfant dire « Mon papa, il a une barrette sur les épaules », immédiatement Emmanuel aurait dit « Mon papa, il a au moins 5 barrettes sur les épaules. »
Il semblait qu'il soit fier de son papa, et j'en suis très reconnaissant. Et vous savez que des enfants, quand ils sont fiers de leurs parents et qu'on s'attaque à leurs parents, ils sont capables de sortir de leur gond, n'est-ce pas, avec les griffes toutes dehors, etc. Eh bien, cet enfant, ce petit Emmanuel, qui en même temps, qui d'une part voulait exprimer de cette manière le profond respect qu'il avait de son papa. Rendez-vous compte, son papa qui le matin, avant qu'il aille à l'école, lui avait lacé ses chaussures. Lacer des chaussures, c'est... Mais il faut avoir au moins 3 doctorats quand on est petit, c'est ce qu'on pense, n'est-ce pas? Quel papa extraordinaire! Et bien entendu, à la fin de l'école, il arrivait à la maison, il posait, ou plutôt jetait son sac dans un coin... Il donnait des gros moutes à maman. Hein. Mais ce que j'aimais, c'est que quand j'étais là, il montait, oh, pas 4 à 4, il était trop petit, mais il montait au premier étage pour entrer dans mon bureau. Et là, ce gamin qui avait défendu l'honneur de papa venait se blottir sur les genoux de papa, lui faisait de ses becs. Et je bénis Dieu parce qu'il nous en fait encore, même adulte. Je bénis Dieu pour son affection aujourd'hui encore. Et il me parlait de tous ces petits soucis de la journée. J'étais à la fois le papa immensément grand et le papa immensément proche. Ça, c'est le Zébéia. C'est la piété dans les Écritures. Mes amis, prenez l'histoire d'Israël. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Dieu pleure. Dieu rugit. Il rugit de douleur parce que peu à peu son peuple, son fils aîné, s'est éloigné de lui. Tu m'aimais au désert, tu me suivais partout au désert. Et quand vous arrivez au dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, comment est-ce qu'il commence? Malachie 1-2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Voilà où on en était, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mépris de Dieu. Il n'y avait plus de piété. Il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait plus de tendresse respectueuse. Alors, cela m'a permis de comprendre une chose. C'est que le mot Eusébéia apparaît avec ses dérivés surtout dans les épîtres pastorales 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, qui font partie des dernières épîtres de Paul. Et puis il apparaît aussi plusieurs fois dans la deuxième épître de Pierre, qui est aussi un livre plus tardif. C'est-à-dire qu'il apparaît là où il se trouve, spécialement dans les livres les plus tardifs. Une bonne quinzaine de fois. Pourquoi ? Eh bien, je l'ai souligné à cause du danger croissant avec les années d'une intellectualisation de la foi. Un christianisme qui devient de plus en plus formel, où la tradition, l'habitude, la routine religieuse s'installe, et avec... deuxième génération dans l'histoire de l'Église. Parce que la deuxième génération a commencé à avoir des problèmes que nous retrouvons maintenant dans la plupart de nos églises. Voyez l'église d'Éphèse, 35 ans plus tard. Alors que dans l'épître aux Éphésiens, vous avez une densité prouvant l'amour extraordinaire de cette église pour son Dieu. L'épître aux Éphésiens se termine par une mention de l'amour. Elle s'ouvre par une mention de l'amour. Que se passe-t-il dans l'église d'Éphèse ? Nous l'avons lu. C'est une église qui travaille.
Littéralement, le texte grec dit qu'elle peine, elle laboure, c'est-à-dire qu'elle ne recule pas devant l'effort. Et c'est une qualité. Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, l'ange dit, le message dit, c'est une église qui persévère. Trois mentions de la persévérance dans l'église d'Éphèse en 7 versets. Trois mentions. Nous avons évoqué la persévérance. De surcroît, et ce n'est pas rien, c'est une église qui discerne le vrai du faux. C'est une église qui exerce une saine discipline en son sein. C'est une église orthodoxe, biblique, qui déteste l'hérésie, qui est championne de la vérité. Dans cette église, on prodigue un bon enseignement. Mais il fait froid dans cette église. Il fait aussi froid qu'au pôle sud. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de microbes au pôle sud. Mais entre nous, soit dit, personne n'a envie d'y habiter.
Et il y a trop aujourd'hui de croyants pôle sud et d'églises pôle sud. Le problème de l'église d'Éphèse, c'est qu'en son sein, la relation avec Dieu n'est plus la même. Un feu s'éteint peu à peu. Le mariage d'amour est devenu mariage de raison. Quelqu'un qui prenait le métro très régulièrement à Paris pendant des années a observé sur une ligne qu'il empruntait continuellement quelque chose d'assez particulier. Parmi les usagers de sa ligne, dit-il, il y avait une jeune et jolie jeune fille qui, à peine entrée dans le compartiment, se plongeait dans un livre et ne le refermait qu'arrivée à destination. Plus d'une fois, elle avait failli oublier son parapluie qu'elle accrochait à la poignée métallique fixé à côté de la portière. Heureusement, il se trouvait toujours un passager pour lui signaler son oubli. « Mademoiselle, vous avez oublié votre parapluie. » Et ce parapluie a donné à un jeune homme qui, depuis quelque temps, observait avec un intérêt évident la jeune fille l'occasion d'engager la conversation avec elle. « Vous avez oublié votre parapluie, mademoiselle, » lui dit-il un jour, d'une voix étouffée par la timidité. Elle lui sourit. C'est ainsi qu'ils lièrent connaissance. Dans les semaines qui suivirent, je les vis plus d'une fois, assis côte à côte, en train de bavarder allègrement. Les mois passèrent. Un jour, je remarquai qu'ils portaient des alliances. Ils étaient cependant devenus bien moins loquaces. Ils échangeaient si peu maintenant. Elle avait repris son livre, lui son journal. Ils étaient mariés. Mais je me rendis vraiment compte du changement que le mariage avait introduit dans leur rapport que le jour où elle commit son oubli habituel. « Ton pépin !» lui dit son mari d'une voix sèche.
« Mademoiselle, vous avez oublié votre parapluie.
Ton pépin !» Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as quoi? Oublié? Abandonné ton premier amour. Abandonné. Ça veut pas dire que j'ai oublié mes clés, hein, je suis pas responsable, hein, ça arrive. Hein. Non, abandonné. Tu as, la manière de l'écrire, tu as progressivement abandonné, quitté, comme on quitte quelqu'un. Tu as abandonné ton premier amour. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas eu hier soir un événement national en France ? Il y a eu hier soir
j'en suis absolument convaincu, un événement national. C'est la finale de la Coupe de la Ligue. Connaissez-vous le score et les équipes engagées ? Monaco, 4, Sochaux, 1. 20 sur 20. Le Dieu que je sers ce matin à 6h40 m'a dit quelque chose. Je ne suis pas un homme de vision et vous ne me ferez pas grimper les murs spirituellement ni tomber je ne sais pas comment. Mais néanmoins, Dieu m'a dit quelque chose ce matin à 6h40. Est-ce que parmi nous, il y aurait des amis, frères et sœurs, qui, hier soir, ont prié et adoré leur Dieu? Ce Dieu s'appelant le Baal du foot. Baal, vous connaissez dans l'Ancien Testament ces idoles qui ont plongé le peuple d'Israël dans une infidélité terrifiante. Il y a une divinité aujourd'hui qui s'appelle Foot-Baal. Il y en a une autre qui s'appelle Automobile. Si vous étiez assis hier soir devant le petit écran, à l'heure où vraiment Dieu vous invitait à s'asseoir dans sa présence, que ce soit clair, ou bien vous n'avez jamais connu le premier amour, et je vous invite à le connaître parce que c'est un amour extraordinaire. Ou bien, je n'hésite pas à le dire, en cette fin de culte, vous l'avez abandonné. Tout ce qui prend la place qui revient à Dieu dans nos vies s'appelle une idole. Football, automobile ou tous les autres balles. Et il faut que nous cessions de dire les choses à moitié. Et que nous acceptions que Dieu nous dise de la manière la plus personnelle qui soit ce que j'ai contre toi. Et n'essaye pas de discuter. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce que si tu n'avais pas abandonné ton premier amour, hier soir, tu m'aurais donné la priorité. Ne croyez pas pour autant que je sois systématiquement contre le football, n'est-ce pas ? Mais je suis persuadé que chacun est parfaitement capable de comprendre le sens de ce que nous venons de partager. Et mes amis, quand nous perdons, quand nous abandonnons, quand nous quittons progressivement le premier amour, un tas de choses commencent à en découler. Il y a des conséquences. Dieu l'a dit à l'église d'Éphèse. Si tu ne changes pas radicalement au niveau de tes pensées, dans ton cœur, si tu ne fais pas un demi-tour complet dans le domaine de tes valeurs, et que ça ne se traduit pas dans ton comportement, dans tes actes, dans tes paroles, dans tes choix, ça s'appelle la repentance dans les Écritures. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de la place où il est. Et c'est ce qui s'est passé. Mes amis, abandonner son premier amour coûte cher, déjà sur cette terre. Il est des jeunes croyants qui se sont mal mariés parce qu'ils avaient déjà abandonné le premier amour. Le premier amour est, non pas en lui-même, mais par le Seigneur, une protection, une antidote, un anticorps extraordinaire pour la lutte contre la corruption et le péché. Et je voulais vraiment terminer par cette dimension-là, parce qu'elle englobe toutes les autres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vous laisse cette remarque de frère Laurent, la présence de Dieu dans la vie de tous les jours, à quelqu'un qui lui demandait s'il aimait Dieu de tout son cœur, il répondit « Ah, si je savais que mon cœur n'aima pas Dieu, je l'arracherais immédiatement. » Quelques instants avant sa mort, on lui demanda pourquoi son esprit était occupé. « Je fais, répondit-il, ce que je ferai dans toute l'éternité. Je bénis Dieu, je loue Dieu, je l'adore et je l'aime de tout mon cœur. » Aimer Dieu, ça se prouve. Aimer son conjoint, aimer sa femme, aimer son mari, ça se prouve. Il y a des priorités que nous n'avons pas le droit d'abandonner. Alors venez ou revenez par la porte basse de la croix à ce premier amour. Nous voulons prier. Qu'il est délicieux, ô notre Dieu, de pouvoir t'appeler Abba, Papa. Et nous le faisons à la fois avec la chaleur d'un cœur touché par ton amour, avec tendresse et avec un profond respect. Qu'il est bon, ô Père Céleste, de pouvoir se réfugier dans tes bras, de connaître quelque chose sur cette terre de toutes les dimensions de ton amour, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, sa longueur. Seigneur, merci. Merci pour cet honneur que tu nous fais, ce privilège extraordinaire de vouloir entretenir avec nous une communication intime, un partage vrai, un échange, même émotionnel. Seigneur, pardon pour nos choix qui affaiblissent, qui affadissent notre amour pour toi, qui nous rendent tièdes, tout juste dignes d'être vomis de ta bouche. Nous te prions les uns pour les autres, afin que tu ranimes dans nos vies l'ardeur et la délicatesse, la pureté, l'intensité du premier amour. Que nous puissions retourner aux premières œuvres qui ont suivi notre rencontre bouleversante avec toi. Seigneur, merci d'entendre notre prière. Merci de nous aider à mettre notre volonté en action. Peut-être même simplement pour plaider coupable pour toutes les priorités durant la semaine écoulée qui n'ont pas été tiennes. Merci, parce que toi, tu ne cesses jamais de nous aimer avec une égale intensité, même si la douceur de ton amour doit se traduire parfois, par des sanctions douloureuses à cause de nos infidélités. Alors en nous accompagnant au sortir de ce lieu, rappelle-nous continuellement cette importance de la qualité de notre relation avec toi. Tu es mon Dieu, mon berger, mon ami, je te chéris avec tendresse en Jésus-Christ. Amen.